Le Village historique acadien vous présente la chronique dans ce temps-là avec Philippe Basque.
Et Sandra va écouter d'une oreille encore plus attentive aujourd'hui.
Parce qu'on parle des Grants. Bonjour Philippe Basque.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Vous allez nous parler aujourd'hui des origines de la famille Grant de la région Chaleur, ainsi que de Free Grant et d'Albert Grant de Tracadie. Pour mentionner que moi, je suis mariée avec un Grant, Denis. Alors, on vous écoute là pour avoir plus de détails, Philippe.
Oui, ça me tente plus de faire la chronique. Là, je suis stressé. Là, moi, je n'ai pas réalisé que tu étais mariée avec un Grant. Puis là, je peux faire des erreurs.
Non, allez-y, allez-y.
Ouais, c'est ça, la semaine passée, j'étais en train de faire de la recherche. Je me souviens plus sur quoi, là, sur un sujet quelconque. Puis je gardais dans le livre de Barry Sturrock qui a été publié par Mgr Donald Robichaud dans les années 80. Puis en fouillant là-dedans, j'ai tombé sur l'origine des Grant, que je sais que c'est une famille de la région Chaleur. Puis je me suis rendu compte que lui, comme son passé était vraiment intéressant, qui est différent des autres familles qu'on a par ici. Mm-hmm. Je me suis dit, oh, tiens, ça ferait une bonne chronique. Puis je vais essayer de voir s'il y a un lien avec Free Grant, puis un lien avec Albert Grant qui était de Tracadie. Là.
OK.
Fait que j'essaie de voir un petit peu ça. Puis j'ai mis quelques documents sur Facebook là, un matin. Mais je vais mettre l'arbre généalogique que je prépare là, plus tard, peut-être aujourd'hui ou demain. Là.
Oui.
Ben, c'est ça, les Grant, c'est le même ancêtre pour la région Chaleur, en tout cas. C'est le même ancêtre qui est John Grant, qui était originaire d'Écosse. Puis lui va venir s'établir éventuellement au Canada. Mais dans le livre, on raconte que lui va immigrer en Amérique puis va aller dans l'État de New York, où est-ce qu'il va s'établir dans l'État de New York, mais en même temps que la Révolution américaine. Alors, quand la Révolution américaine éclate, lui va s'enrôler. Puis on raconte qu'il aurait été grenadier. Fait qu'il était dans les armées britanniques, et du côté des perdants, dans le fond. Là. Fait que lui était du côté britannique, puis les États-Unis vont devenir les États-Unis. Puis lui va devoir quitter comme un loyaliste, dans le fond, qui se trouve un autre endroit. Puis quand ce qu'on lit là-dedans, on dit qu'il a servi pour deux généraux, là, deux générales.
Mm-hmm.
Le général Burgoyne, qui était, lui, c'était le commandant perdant de Saratoga. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom-là, mais c'est une bataille qui a eu lieu entre les Américains et les Britanniques, que les Américains vont gagner, que lui va perdre. Fait que lui était peut-être là, John Grant, à cette bataille-là, ou au moins il était sous les ordres de ce général-là. Le général ne va pas être là longtemps. Il va arriver, lui, l'année auparavant de cette bataille-là. Il va arriver à Québec, il va y aller aux États-Unis, puis le show de John Grant était probablement dans ce coin-là. Puis après ça, lui, ce général-là, la bataille va terminer. Il va retourner éventuellement en Angleterre. Après ça, il dit qu'il est sous les ordres du Major Rogers. Puis Major Rogers, lui, était beaucoup connu à cette époque-là. C'était un gars qui avait fait la guerre de 7 ans, dans les années 1750. Puis ça avait démarqué, il avait même écrit un manuel de comment gérer les Rangers, qui était une forme de militaire.
Mm-hmm.
Puis, mais quand il va revenir pour l'indépendance des États-Unis, il a une moins bonne réputation, ça va moins bien dans sa vie. À un moment donné, il va se séparer de sa femme, puis il tombe dans l'alcoolisme. Fait qu'il est moins influent là, dans les années 1770. Fait que ça dit dans le livre qu'il a été 4 ans avec les troupes du Major Rogers. Ça se peut que c'est moins, là. Ça, il faudrait vérifier ça un petit peu.
Oui.
Mais Rogers était là quand même. Puis Rogers va quitter lui, puis il va sombrer dans l'alcool, va mourir, oublié. Mais il avait écrit quand même des pièces de théâtre ou de la poésie ou quelque chose comme ça.
Oui.
Ouais, de son temps de guerre. Là. C'est pour ça qu'il était il avait une certaine réputation. C'est pour ça que Mgr Donald Robichaud en parle là, dans son livre. John Grant va en tout cas servir durant la guerre d'indépendance américaine. Puis il va faire comme beaucoup de soldats qui se font, ils quittent les États-Unis parce qu'ils n'ont pas le choix, vont avoir des terres dans la région ici. Bien, étant donné que c'est des anciens militaires, ils obtiennent des titres de terre lorsqu'on applique pour les grandes grants, là, les différentes grandes grants du Nouveau-Brunswick, là, comme William Ferguson, par exemple, à Tracadie. Lui, c'est ça qu'il va avoir. Il y en a beaucoup dans la région de Fredericton qui vont avoir des terres, les loyers qui sont toutes là. Puis John Grant, lui, ça va être dans la région de Beresford qui va avoir sa terre.
Mm-hmm.
Fait que quand il arrive, lui, il va pas y aller tout de suite à Beresford. Il va aller à Québec, dans la ville de Québec. Et c'est là qu'il va marier une femme, là. Il va marier une Anne Walsh. Et puis, il va avoir 2 enfants avec cette femme-là, dont William Christie. Que William Christie, il va avoir 2 enfants, Grant avec lui, mais Anne Walsh était déjà mariée. Puis elle avait William Christie comme fils. Mais dans le fond, il va comme devenir le père de cet enfant-là qui était d'un autre mariage de sa première femme, de sa femme qui vient de marier, qui était veuve. Dans le fond, il a marié une veuve qui avait un enfant. Là. Fait que cet enfant-là va obtenir un titre de terre en même temps que son beau-père juste à côté à Beresford quand tu regardes la liste de tous les noms. Là. Là, lui va se marier, puis éventuellement va venir s'établir dans la région ici. Là. Cette madame-là, cette première épouse-là va décéder, puis il va se remarier avec une autre femme qui s'appelle Anne Thébault. Puis là, avec Anne Thébault, il va avoir une dizaine d'enfants. Pendant tout John Grant, là, il va avoir une douzaine d'enfants, d'où il y a beaucoup de lignées de Grant, là. Il y a des Grants qui vont s'en aller un petit peu par Petit Rocher, Pointe-Verte, puis oui. qui va rester à Beresford, puis il y en a qui vont aller plus dans les terres à Robertville, par là. Mm-hmm. Ils vont aller un petit peu partout dans les alentours. Fait que lui, il va venir s'établir à Beresford. Il va essayer de s'établir à Belledune au début. Il va essayer d'avoir une terre à Belledune avec des gars qu'il connaît. Ça va pas marcher, ils vont pas aimer ça parce que les plages sont réservées pour la pêche. Parce qu'à l'époque, dans les années 1700, on réserve les bords de plage pour sécher le poisson ou pour faire des débarquements. Fait que probablement dans le coin de Belledune, il n'était pas content qu'il ne pouvait pas avoir accès à la côte comme qu'il voulait. Là. Fait que là, il va descendre un petit peu, puis là, il va s'établir à Beresford. Puis quand on va donner les titres de terre en 1812, c'est là que lui va obtenir son titre de terre légalement. Là. Mais ça faisait quand même un bout de temps qu'il était là. Puis à l'époque, au tournant du siècle, comme ça, on appliquait toujours pour un grand nombre de personnes. Là. C'était jamais un à un. Fait qu'il va avoir deux lots, lui, probablement à cause qu'il est comme un ancien militaire. Il a servi avec le gouvernement britannique. Fait que quand on avait des anciens soldats comme ça, on leur donnait des plus gros lots de terre que comme les Acadiens ou les gens du Québec qui arrivaient et qui s'établissaient dans le nord du Nouveau-Brunswick. Fait que lui va obtenir un titre de terre, le numéro, je pense que c'est 7 ou 8, quelque chose comme ça. Puis à côté de lui, William Christie. Là. Ça, la carte, elle est sur Facebook. Là. Okay. On peut la voir là.
Oui, je l'ai partagé sur la page de la station, sur la page Facebook de la Superstation aussi, là, pour que les gens puissent voir ça. Ouais.
Lui, on disait que c'était son métier, là, il a souvent dit qu'il était sieur de bois. Fait qu'il était probablement impliqué dans l'industrie du bois ou quelque chose du genre, là. Mm-hmm. Vendre du bois ou le moulin à scie ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il était un petit peu sur le bord de l'eau également, peut-être avoir un courant d'eau pour faire un moulin, je ne sais pas trop. Mais ça se peut que c'est ça. Puis lui, étant donné qu'il était militaire, il va s'impliquer dans la milice locale. À l'époque, on a beaucoup ça. Fait qu'il va être nommé capitaine de la milice. Puis,
ce qui remplace la police, qui remplace...
Ben, c'est comme une armée... milice comme locale. Là. À cette époque-là, la milice est beaucoup impliquée dans les combats. Fait que, comme par exemple la guerre de 1812, là, que ces années-là, on engage la milice canadienne, qui n'est pas une... ils sont entraînés, mais ils ne sont pas des soldats professionnels comme l'armée britannique. Mm-hmm. Mais comme, disons, la bataille de Québec, par exemple, là, on a utilisé les milices canadiennes durant les différentes batailles. Fait qu'on a toujours ça en réserve, là, des miliciens dans les années 1800, là. Pour les différents conflits qu'il peut avoir. Fait qu'on a une armée régulière, mais on a la milice qui est comme les gens de la place là, qui peuvent avoir des armes puis participer. Fait que ça, on a tout le temps ça. Dans les années 1800, là, que des gens, les fermiers, les pêcheurs, peuvent faire partie de la milice. Là. Des fois, c'est bien organisé, des fois, c'est moins bien organisé. Là. Mm-hmm. Ça dépend des années. Puis lui, John Grant, va décéder dans les années 1820, je pense en 25 ou en 26. Il va faire une application pour une terre pour un de ses fils, là. On a ce document-là, « Petition of John Grant, an old soldier, age 74 years old ». Ça, c'était rendu en 1826. Mais il va décéder pas longtemps après. Puis là, c'est pas clair, là, j'ai pas pu savoir si c'est sa génération à lui ou ses fils. Mais eux autres, la terre qu'ils ont, là, c'est la terre où il y a le ruisseau Grant. Là. Mm-hmm. Ils ont un petit peu des deux côtés, comme tout le ruisseau au complet est sur la terre des Grant. Il y a un petit peu de ce bourg-là, puis il y a un petit peu de ce bourg-ci.
Où est-ce qu'il y a le Tim Hortons à Beresford?
Oui, c'est ça, là, le ruisseau qui est là, c'est ce bourg-là. Pas loin après l'église, là.
C'est ça.
Un petit bout après, là.
Oui.
Puis c'est sa terre à lui, puis la terre, juste après, c'est la terre à son beau-fils, là. Mais lui va être établi sur cette terre-là. Puis dans les années 1800, je ne sais pas si c'est de son vivant à lui ou un petit peu plus tard, il va perdre cette terre-là. C'est dans le livre de Beresford, ça, à la page, si vous suivez tout avec moi, le livre.
Oui.
Mais à la page 124-125, là, il avait comme surnommé cette place-là Salt Ash. Puis il y a un gars qui va arriver là, un William Molloy, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ça, puis il va comme usurper la terre. Là. Il va, je ne sais pas comment il va faire ça, mais il va se rendre compte, lui, que la terre est sans titre de terre, j'ai pas compris trop ça, puis il va faire la demande de la terre, puis il va comme prendre la terre des Grant, là. Fait qu'il va s'installer là, lui, cette terre-là. C'était un Irlandais qui arrivait là, puis je sais pas ce qu'il a fait, mais il s'est organisé. Il y a eu un procès aussi, ça, faudrait que je vérifie ça aussi, là. Il y a eu un procès à l'époque, il y avait une cour suprême, là, qu'on pouvait aller au Nouveau-Brunswick, puis il a venu son groupe, il a comme gagné, puis il a reçu la terre, lui, il a pris la terre des Grant, là, la terre ancestrale, là. Puis après ça, lui, il a eu une famille, là, ce gars-là, là, il a eu une maison, tout ça. Puis ben, après ça, ben, les Grant, ben, quand on regarde sur les cartes, ben, là, il y a d'autres Grant qui vont avoir des terres là, comme plus loin, comme les, probablement les petits-fils à John Grant, là, qui portent le nom aussi de John Grant ou James Grant, c'est souvent G. Grant. Mm-hmm. Mais des fois, quand tu t'essaies de démêler tout le monde, eux vont aller plus loin dans les terres à Robertville. Puis après ça, ben, les Grant, ben, ils vont en avoir, puis ils vont en avoir, puis il y en a encore aujourd'hui.
Ouais. Comme moi, du côté de mon mari, les Grant, ils ont grandi là, à Sainte-Louise.
OK. C'est alors, ça, ouais.
Un petit peu plus haut que Robertville.
Ouais,
c'est
oui, ça. C'est ça. On voit ça sur les terres que plus qu'on avance, plus qu'on monte dans les terres. Ce qui m'apporte à venir à parler de Free Grant. Ouais. Je pensais que Free Grant était à cause des Grant.
Il vous reste deux minutes, Philippe.
Les Grant ou Free Grant. Ouais, c'est correct, c'est amplement de temps. c'est ça. Free Grant, c'est vraiment plus à cause des concessions de terres gratuites que des Grant qui ont eu des terres. Mais quand on regarde sur la carte, là, hier, je me suis amusé à essayer de dater tout le monde qui a eu des terres à cet établissement-là. Puis les plus loin, je peux voir, c'est juste après la loi qu'on donnait des terres gratuitement après qu'on l'ait améliorée. Fait dans ce temps-là, dans les années 70-80, il fallait aller sur la terre, la défricher, construire une petite maison, puis là, on pouvait avoir le titre de terre gratuitement. Fait comme les plus vieux, c'est 1883, qui est une dizaine d'années après que la loi a été adoptée. Puis le plus récent, c'est quand même pas longtemps passé, c'est un Edgar Haché en 1970. Et lui a eu un lot là. Puis si on regarde comme là-bas dans le fond de Free Grant, là, on voit que Francis McManus a eu un lot de terre en 1896. Ça, c'est le lac Nigadoo. Puis Bennett Haché, en 1910, il a eu le lac Otterley. Ces gars-là, c'était des gars qui étaient quand même à l'aise à Bathurst. Puis eux ont probablement été capables d'avoir des terres assez au début, loin là, pour probablement aller sur le lac ou faire de la pêche ou je ne sais pas quoi, sur le lac. Là. Fait qu'eux autres ont eu ces terres-là. Il y a trois petits lacs là, dans cette région-là. Puis c'est ça. Fait qu'en 1883, puis les années 60, là on va graduellement donner des terres à tout le monde, à Free Grant. Là. C'est un peu comme ça, ça s'est okay. fait. Là. Puis le dernier Grant que je vais parler, lui, je n'ai pas beaucoup d'informations, je n'ai pas eu le temps de trop faire de la recherche. Mm-hmm. C'est Albert Grant à Tracadie, qui va être comme un des premiers embaumeurs. Là. C'est, il va travailler dans un salon funéraire, qui est le dentiste aujourd'hui. Là. Il y a un dentiste là, à Tracadie, c'était dans cette région-là. Et puis, lui, on me racontait, moi je m'en rappelle, là, les gens m'ont conté ça, que dans les années 50-60, lui offrait le service d'embaumer, mais il n'y avait pas encore de salle d'exposition comme un salon funéraire aujourd'hui. Je me rappelle d'une famille, moi, qui était dans quoi, Duguayville ou Bois-Gagnon, ou Bois-Blanc, parlant. La grand-mère était décédée, puis lui pouvait aller avec son char chercher le corps, embaumer au salon, après ça, retourner le corps pour faire la veillée à la maison, mm-hmm. parce qu'on ne faisait pas encore les veillées au salon funéraire où est-ce que lui embaumait. C'est vraiment juste un service d'embaumage. Puis après ça, là, ça va devenir un salon funéraire éventuellement. Là, on connaît les faits du salon funéraire. Puis lui, il me semble, c'est le père des Grant qui était, ou le grand-père, c'est les mêmes Grant qu'il y avait dans le coin de Valcomo dans les années 90. Là, il y a des Grant aussi qui sont dans le coin là, qui faisaient beaucoup de décorations de Noël. Là, je me rappelle.
Oui,
là,
oui. Allait là, oui.
À Valcomo.
Oui, oui.
Puis même le Père Noël allait là des fois à Valcomo. Là, on pouvait aller le voir. Ça, c'est des Grant aussi. Mais c'est pas les mêmes Grant que Bathurst. Là, je gardais là, Albert Grant parce que ça disait qu'il était né à Chimogui, qui est une place là, de l'autre bord de Cap-Pelé en allant par l'île Prince-Édouard, quand on va par là, dans le sud-est de la province. Là. J'ai vu qu'il était né là, mais c'est ça, c'est pas les mêmes Grant qu'à la région Chaleur.
Okay.
Je veux juste me rectifier, le ruisseau Grant, c'est lui avant Jean Coutu, c'est pas lui avant Tim Hortons.
Avant Tim Hortons, c'est le Mill Stream.
Ouais, c'est ça.
T'as raison, c'est Mill Stream.
Oui, ouais, voilà, c'est ça.
Merci Philippe.
De rien, à
la semaine prochaine.
Envie de prendre une marche? Mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs au Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours, de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!